reportage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité décryptage, je vous rappelle le thème de notre grand rendez-vous ce soir. Au moins 5 morts et 17 blessés depuis le matin du vote lundi au Ghana. C'est le bilan enregistré par la police alors que le ton monte entre le président sortant, candidat à sa succession, à son rival, l'ancien président John Dramani Mahama. Les deux hommes s'accusent mutuellement d'être, je cite, antidémocratiques ou de jouer un jeu dangereux. Nos invités patientent déjà au standard pour les débats. Le temps d'accueillir notre invité en direct dans Décryptage. Bonsoir madame. Allô madame. Bonsoir. Aude de Thouin, vous êtes en ligne,
oui, bonsoir. Absolument, bonsoir.
Fondatrice et présidente du conseil d'administration de Women in Africa Initiative, merci d'être en direct avec nous sur Africa Radio. Madame, Meet Africa, un programme destiné aux entrepreneurs des diasporas africaines, a été lancé ce mercredi à Paris. Et rappelons que Meet Africa signifie mobilisation européenne pour l'entrepreneuriat en Afrique. La phase 2 de ce programme est-elle dans la continuité de la première qui a été lancée en 2016?
Ah oui, et plus que dans la continuité, puisque d'un budget de 1,7 million d'euros la première année, pour accompagner, qui a accompagné 80 entrepreneurs pendant 18 mois, là le budget est passé à 8,5 millions d'euros, et l'objectif c'est d'accompagner 150 entrepreneurs et de financer 170 entreprises sur 36 mois. Donc oui, c'est de la continuité, un développement, et ça donne beaucoup d'espoir pour les entrepreneurs africains.
Est-ce qu'il y a néanmoins eu des ajustements qui ont été faits en tenant compte peut-être de la précédente phase?
Alors, les ajustements sont liés en particulier à ce qui s'est passé dans l'économie globale, c'est-à-dire le Covid, ce qu'a provoqué le Covid, évidemment. Mais ce qui est assez réjouissant, c'est de voir que le numérique, l'Afrique étant très numérisée, très digitalisée, le numérique joue à plein et aide beaucoup les entrepreneurs. Et donc, il y a des adaptations de modèles économiques par l'utilisation du digital, et c'est très encourageant également.
Et quels sont les objectifs principaux de cette phase 2, madame ?
C'est d'accompagner beaucoup plus les entrepreneurs, c'est de les identifier, d'aller plus loin dans la recherche, de soutenir et de regarder aussi les femmes, puisque vous savez que lorsqu'on parle de soutien aux entrepreneurs de façon assez classique, malheureusement, évidemment moi qui suis une femme et qui ai lancé Women in Africa, je trouve que c'est plus destiné aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est une attention particulière aux femmes dans l'économie africaine, et puis c'est ce budget très important aujourd'hui de 8,5 millions.
Et vous parliez à l'instant d'identification des bénéficiaires. Comment se passe justement cette phase? Est-ce que c'est vous au niveau de Meet Africa qui identifiez ces personnes, ou ce sont les bénéficiaires qui doivent venir vers vous? Comment se passe la connexion?
Alors c'est les deux. Meet Africa, c'est un appel à candidature pour identifier les entrepreneurs et les entrepreneurs qui connaissent maintenant, et c'est aussi pour ça que c'est important de vous parler ce soir, qui connaissent au travers des médias le réseau qui est en train de se créer, qui a commencé il y a déjà un an maintenant, peuvent venir également sur le site, et ça c'est important, sur le site meetafrica.com, dans lequel ils vont trouver tous les éléments d'information pour pouvoir s'inscrire et postuler.
Et quel bilan vous faites de manière concrète de la première phase? Combien de bénéficiaires ont pu avoir droit à votre soutien?
C'est 80 entrepreneurs, donc c'est important. C'est important, et aujourd'hui, donc ça va doubler, puisque c'est 150 entrepreneurs qui vont être accompagnés, et également on le voit par exemple au Maroc, mais aussi au Sénégal. Ce sont les entreprises dans les pays qui accueillent et qui encouragent la diaspora, par exemple, à investir plus dans les pays et à soutenir les entrepreneurs qui veulent se développer dans leur pays.
Comment ces projets ont-ils été définis et comment s'est passée la décision?
La décision s'est prise à la fois avec l'AFD, avec
l'Agence française de développement.
Absolument, avec Expertise France et aussi avec le soutien de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, parce que les fonds sont... L'Union européenne accompagne ces entreprises et ont des fonds pour ça. Donc c'est une, vous savez, aujourd'hui tout le monde est conscient que l'entrepreneuriat et le développement de l'Afrique passera par l'entrepreneuriat. Et donc ce sont des rencontres basées sur l'intelligence, le besoin, la rencontre d'entrepreneurs créatifs et d'institutions et de pays qui savent à quel point ça peut apporter des changements sur le continent.
Et dernière question, Madame Dautoin, comment se passe la répartition du soutien que vous apportez ? Est-ce qu'il y a des pays qui ont plus besoin d'aide que d'autres ? Je pose la question, par exemple, pourquoi ? Parce qu'on a observé qu'au Sénégal, ces derniers mois, il y a une recrudescence de l'immigration clandestine. Est-ce que, quand on a affaire à des situations comme celle-là, vous accentuez votre soutien vers ces pays spécifiques ?
Alors, ça, c'est un sujet évidemment majeur, qui est un sujet qui est lié à la situation politique de chaque pays. Et aujourd'hui, l'argent ira et va plus facilement dans des pays qui sont stables. J'entendais des informations sur le Ghana, par exemple. Ce sont des situations qui n'encouragent pas des investisseurs. Donc aujourd'hui, plus les pays sont stables, plus les élections se passent bien, plus les dirigeants de ces pays ont conscience que les entrepreneurs sont les forces vives de leur pays, et plus tout est lié. Il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat, de développement d'entrepreneuriat, s'il y a des agitations dans le pays.
Merci beaucoup, Aude de Toin, fondatrice et présidente du conseil d'administration de Women in Africa Initiative. Et vous étiez en direct avec nous de Paris pour parler de ce programme destiné aux entrepreneurs des diasporas africaines, dont la phase 2 a été lancée aujourd'hui même à Paris.
Merci, madame.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous retrouvons donc nos invités pour parler de l'atmosphère post-électorale crispée au Ghana avec nos invités. Julien Ossou, coordonnateur régional de WANEP, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Monsieur Ossou, bonsoir.
Bonsoir, Africa Radio.
Vous êtes en ligne d'Accra au Ghana et en ligne de Dakar au Sénégal, Mathias Oumpé. Monsieur Oumpé, bonsoir.
Bonsoir.
Administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa. Et enfin, en ligne de Ouagadougou, notre confrère Boukari Ouaba, rédacteur en chef du journal Mutation et secrétaire général de l'AJB, c'est l'association des journalistes du Burkina. Monsieur Ouaba, vous m'entendez ?
Je vous reçois, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue, messieurs. Je vais commencer par vous, monsieur Ossou, qui êtes à Accra. Quelle est l'ambiance dans le pays et à Accra précisément où vous vous trouvez ?
Alors, merci beaucoup pour la question. Disons que depuis hier, aux environs de 15 heures, une certaine tension a commencé par s'installer. Et elle est devenue de plus en plus tendue. Et puis là où nous sommes actuellement, par ailleurs, si la programmation tenait, la commission électorale pourrait être en train d'annoncer les résultats. Mais c'est une situation, disons, très tendue entre les deux principaux candidats, les militants, beaucoup plus du parti NDC, qui sont très mobilisés, qui ont presque assiégé, hein, entre guillemets, la commission électorale. Bref, une situation sensible qui a mobilisé assez d'initiatives des acteurs impliqués, mais qui ne laisse pas entrevoir vraiment, disons, une situation où, une fin qui rassure les uns et les autres. Non, il y a des inquiétudes.
Donc, est-ce qu'il y a des déploiements massifs de forces de l'ordre dans la ville autour de la commission électorale?
Oui, s'il n'y avait pas eu de déploiement, peut-être qu'on aurait déjà assisté à des scènes d'autres violences, parce qu'il y a du déploiement important pour empêcher les militants d'aller assiéger le siège comme il aurait peut-être voulu. Il y a du déploiement. Dans la ville, il y a des voies de circulation qui sont plus vraiment praticables parce que, voilà, il y a ce mouvement de foule qui attendait depuis ce matin la proclamation des résultats par la commission électorale.
On va voir tout à l'heure comment expliquer ce retard justement de la commission électorale et peut-être revenir aussi sur les raisons de cette montée de violence. Mais sur les résultats, Monsieur Oussou, que sait-on précisément des résultats ce soir?
Alors, jusque-là, on continue de lire sur les médias un certain nombre de chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le problème se pose sur, d'un côté, sur les résultats au niveau des élections parlementaires. Il y a des circonscriptions électorales dans lesquelles il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines circonscriptions électorales dans lesquelles les acteurs ne s'entendent pas, je veux dire les deux groupes de candidats ne s'entendent pas sur les données qui sortent de ces circonscriptions. Ça, c'est un des éléments qui a commencé par faire venir l'attention dans le système.
C'est-à-dire là, vous parlez des résultats des élections législatives.
Législatives. Et donc, ça, c'est un des éléments qui a, disons, attisé un peu l'attention. Un autre élément, c'est disons, cette planification que la commission électorale a eu à faire par elle-même, alors qu'aucun test ne lui obligeait
à donner les résultats dès le lendemain du vote.
24 heures après.
D'accord.
Et donc, il est arrivé une situation où elle n'en était pas capable de la donner. Son incapacité de livrer les résultats a laissé place à des suspicions, à des interprétations en guise de manipulation possible des résultats. Et cela a déclenché comme une vague d'interprétation et même d'appels de militants à résister. Et donc, tout ça a fait que même après le fait que la commission électorale ait finalement pu faire une communication pour expliquer qu'elle n'en était plus capable,
cela n'a pas permis de rassurer les gens et de calmer la tension. Merci beaucoup, Monsieur Oussou, pour la description de la situation vue d'Accra où vous êtes. Nous allons retrouver à Dakar Mathias Oumpé. Monsieur Oumpé, quand vous entendez ce que vient de dire Monsieur Oussou d'Accra, qu'est-ce que cela vous inspire?
Il y a un peu de surprise, mais la surprise n'est pas aussi grande que ça, pour des raisons que je vais partager avec vous. Disons que tout le monde anticipait, ou du moins beaucoup de gens anticipaient le fait que les résultats de ces élections seraient serrés. Et donc, justement parce que les résultats sont serrés, la commission électorale est obligée d'attendre d'avoir tous les résultats avant de donner des résultats venant des régions, avant de pouvoir donner, n'est-ce pas, les résultats au niveau national.
C'est-à-dire qu'il y a eu des sondages qui donnaient coude à coude les deux principaux challengers.
Voilà, tous les sondages qu'il y a eu, et même le sentiment des citoyens, tout le monde savait que c'est comme si Nana Akufo-Addo avait perdu un peu de la popularité qu'il a eue en venant au pouvoir. Parce qu'il est quand même venu, quand vous regardez les résultats des élections de façon générale au Ghana, il est venu avec une marge assez confortable. Et donc, il était venu comme quelqu'un en qui beaucoup de Ghanéens croyaient. Et donc, ceci s'est manifesté, on voit que les résultats sont très serrés. Et donc, vous savez que quand les résultats sont très serrés, les acteurs politiques ont tendance à tirer là-dessus parce que chacun pense qu'il peut toujours gagner un poste ici ou un poste là-bas.
Puisque la défaite ou la victoire tient un seul fil.
Exactement. La deuxième raison, c'est que le Ghana, curieusement, fait partie des pays où tout le monde sait que les partis politiques, les deux grands partis politiques, ont des sortes de milices qui sont capables d'orchestrer la violence. Il y a même eu une loi qui a été votée contre cela parce que tout le monde voyait le danger que cela pouvait entraîner. Et vous voyez qu'hier, le responsable de NDC qui a parlé des résultats, surtout pour les élections législatives, appelait justement leurs foot soldiers, c'est comme ça qu'il les appelle, à protéger leurs résultats. Et le troisième élément que je voudrais ajouter pour expliquer cet état de choses, c'est qu'il y avait quand même, pour dire la vérité, un peu de problème de méfiance, surtout de l'opposition vis-à-vis de la commission électorale. Donc vous mettez ces trois éléments ensemble, on s'attendait que ça, il pouvait avoir quelques échauffourées au Ghana.
En tout cas, la police parle d'au moins 5 morts et de 17 blessés. Boukari Ouaba, est-ce que vous êtes aussi surpris par cette violence? Monsieur Oumpe disait qu'il, compte tenu du contexte dans lequel se tenait cette élection, il n'était pas surpris. Mais vous, vu de loin, le Ghana, qui a été toujours considéré comme un pays exemplaire en matière d'élection et de démocratie, est-ce que vous êtes un peu surpris aujourd'hui?
Tout à fait. Il y a quand même un brin de surprise. Dans la sous-région, on a connu des élections avec beaucoup de tensions, beaucoup de violences. La plus récente, c'est à Côte d'Ivoire, c'est en Guinée. Et on était sûr qu'au Ghana, quand même, on allait avoir des élections d'une certaine manière exemplaires, stables et transparentes. Il y a eu le cas de Burkina où on était aussi assez serré, malheureusement, on a vu que vers la fin, il y a eu quand même quelques difficultés, même si rapidement tout semble être entré dans l'ordre. Mais pour le Ghana, on était beaucoup plus serré que cela. Et aujourd'hui, on est au regret de constater qu'il y a quand même des tensions, disons même des violences carrément.
Et ces tensions sont intervenues à partir de lundi matin, le jour des élections, c'est-à-dire que pendant la campagne électorale, il n'y avait pas ce sentiment de violence, il n'y avait pas cette tension. D'après la police, les 5 morts, c'est entre 7 heures le jour de l'élection, lundi, à hier.
Oui, plus on approche de l'élection, on approche le moment de la proclamation des résultats, plus les enjeux deviennent encore plus importants et puis la tension va certainement monter aussi en puissance. On peut comprendre que ça soit le jour des élections qu'on a pu constater donc une flambée de la tension parce que rapidement, dès le matin, lorsqu'on fait le tour des bureaux de vote, on peut constater un certain nombre de comportements qui peuvent souvent ne pas être bien appréciable. Et puis bon, finalement, tout de suite, ça peut dégénérer. Donc, on peut comprendre que ce jour-là, il y a eu effectivement cette violence-là.
Merci.
Et puis par la suite, je suis d'accord avec l'intervenant Oussou. Je crois que la commission électorale s'est mise à une pression inutile. C'est un peu ce qu'on avait constaté aussi au Burkina, le fait de vouloir.
Mais l'année dernière, la commission électorale, qu'est-ce que je dis lors de la précédente élection, la commission électorale a réussi à donner les résultats dès le lendemain. Peut-être qu'elle était convaincue qu'elle y arriverait cette fois, mais elle explique qu'il y a eu des fortes pluies dans plusieurs régions du pays, ce qui a retardé la transmission des résultats.
C'est souvent compréhensible au sein de la population, malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter de se mettre une question inutile à partir du moment où les élections en elles-mêmes sont déjà un moment donc, de forte tension, donc de pression. La Constitution vous donne un délai. Utilisez autant que possible le délai que la Constitution vous autorise et dès que possible, vous proclamez les résultats. Mais si vous annoncez les résultats pour mardi et que mardi vous venez pour annoncer donc un report donc de la programmation sans même donner un délai précis.
Ça fait problème. Merci beaucoup. On marque une pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et il est 18h30 à Paris, 17h30 à Accra. Nous allons poursuivre notre débat sur les lendemains difficiles, voire incertains, des élections au Ghana, avec au moins 5 morts et 17 blessés d'après la police. Et nos invités sont en ligne. Boukari Ouaba, rédacteur en chef du journal Mutation et secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Il est à Ouagadougou. Et Julien Oussou, coordonnateur régional du WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Mathias Oumpe, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa à Dakar. Julien Oussou, vous êtes à Accra, je reviens à vous. Avant la pause, Boukari parlait de cette pression que, disait-il, la commission électorale se met sur elle inutilement en annonçant qu'elle pourrait donner les résultats le lendemain. Est-ce que ce n'est pas l'envie de trop bien faire? Est-ce que la CENI n'a peut-être pas péché par l'envie de trop bien faire et aussi par cette crainte qu'en retardant les résultats, ça pouvait justement créer des soupçons et amener à aux violences?
Oui, vous avez parfaitement raison et il est normal que l'on puisse fixer des objectifs. La question aujourd'hui, on se rend compte tous de comment cela a laissé une brèche pour tout ce que nous sommes en train de constater maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il fallait l'annoncer, insister, répéter comme, disons, la commission a eu à le faire, au point où tout le monde s'attendait vraiment à cela, comme si, alors, les élections antérieures, cela a été fait, mais c'était le fruit d'un certain nombre d'années d'expérience. Il faut prendre cela aussi en considération. On se rend compte simplement que le fait de n'avoir pas pu le faire, même quand les candidats étaient conscients que cela ne pourrait pas être, disons, proclamé, parce qu'ils étaient aussi dans les centres de compilation, comme on a dit, le simple fait de l'avoir annoncé a ouvert, disons, cette brèche et on est en train, disons, de suivre ce que nous sommes en train de suivre là parce que les théories de tentatives ou de suspicions sont rentrées dans le jeu et ça
les gens
compliqué suffisamment.
Les électeurs commencent à penser que c'est louche. Mais les raisons, voilà. Je mentionnais tout à l'heure les raisons avancées aussi par la CENI, qu'il y a eu des pluies, des fortes pluies ces derniers jours qui ont compliqué la transmission des résultats. Est-ce que ce sont des explications recevables? Est-ce que ça tient la route?
Oui, effectivement, parce que nous, au niveau de WANEB, nous avons déployé près de 350 observateurs et nous avons travaillé avec la commission chargée de l'éducation civique ici qui a déployé 1300. Effectivement, il y a eu des pluies qui ont même arrêté momentanément, disons, le scrutin à des endroits dans le pays et tout ça a nécessairement des influences sur le processus de conduite et de compilation des résultats. C'est un fait. Mais on est en politique et toute déclaration devient après utile ou non utile pour les acteurs politiques selon les intérêts en jeu. Et c'est de ça qu'il est question là maintenant.
Mathias Oumpé, est-ce qu'il y a un lien entre le décès en début novembre de l'ancien président Thierry Reulings, fondateur, il faut le dire, du NDC, et cette montée de tensions post-électorales? Parce que sa mort, la querelle un peu autour de ses obsèques, faisait déjà qu'il y avait une sorte de tension larvée, même avant les élections.
Non, je ne dirais pas ça. À mon avis... Je ne crois pas que, même s'il avait été vivant, je vais mettre en griffe, il aurait pu empêcher la situation que nous vivons en ce moment, parce que les enjeux sont très élevés. Et les acteurs politiques ont le sentiment qu'en insistant un peu, chacun peut tirer le droit de son côté. Je crois que l'opposition aujourd'hui espère gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui serait inédit au Ghana, ce qui leur donnerait un pouvoir énorme, même s'ils ne gagnent pas la présidence. Et donc, je pense que tout se fait en ce moment autour de ce résultat-là. Et donc, je ne crois pas, honnêtement, que la présence de Reulings aurait pu empêcher quelque chose. Surtout que ça fait longtemps que Reulings, à mon humble avis, n'a plus d'emprise sur la formation politique qu'il a contribué à créer, je veux dire...
Le NPP.
Le NDC. Voilà, le NDC. Il n'a plus vraiment d'emprise là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les élections de 2016, ou bien même ceux de 2012 plutôt, sa femme voulait être candidat et a été battue à plate couture par le président Mahama. Donc, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose.
Non, je disais que déjà avant son décès, là, c'est peut-être au niveau de l'influence. Vous dites que même s'il était en vie, peut-être qu'il n'aurait pas pu changer grande chose. Mais je parlais déjà de cette atmosphère tendue qu'il y a dans laquelle, c'est-à-dire qu'on a entendu les membres du NDC dire que le NPP n'a jamais aimé Thierry Reulings de son vivant, mais a voulu récupérer un peu sa mort pour rafler quelques voix. Donc, est-ce que cette atmosphère-là dans laquelle se trouvait déjà le pays n'a pas alimenté, n'a pas accentué les violences?
Voilà, et c'est déjà peut-être un signe de ce que la tension entre les deux partis politiques montait. Et avant cela, ils ont organisé des élections partielles qui ont été l'objet de beaucoup de violences aussi, de violences sérieuses. Et donc, je pense que tout le monde voyait des signaux que la situation serait tendue lors de ces élections. Et moi, je ne prends pas certaines initiatives au hasard. Si vous voyez, il y a une semaine ou 10 jours, le président Obasanjo a écrit une lettre qu'il a adressée aux deux grands partis politiques leur demandant de jouer le jeu démocratiquement, d'utiliser les recours prévus par la loi pour régler les litiges et tout. Pour moi, ces acteurs savent lire les situations et savent anticiper sur les situations de crise. Donc, je crois que ça fait un moment... On s'attendait à ce que ces élections soient quand même tendues au Ghana.
Merci, Monsieur Oumpé. Boukari Ouaba, vous êtes là. J'espère que la ligne est meilleure avec Ouagadougou. Vous m'entendez?
Tout à fait.
Voilà. Est-ce que ces violences ne sont finalement pas une alerte, Boukari, de ce que il faut peut-être renouveler, qu'il y a urgence à renouveler le paysage politique dominé ces dernières années par le NPP du président sortant et le NDC de John Dramani Mahama? Il faut peut-être de nouveaux visages.
Oui, peut-être de nouveaux visages, mais il reste quand même que c'est le dernier exemple en la matière. Peut-être qu'au niveau des partis, il n'y a pas beaucoup de changements, parce qu'on voit les mêmes partis, le NDC, le NPC qui se succède, donc qui s'entend le pouvoir. Et qu'au niveau des hommes, c'est vrai, on voit ici un candidat, le challenger, notamment du président sortant, qui veut revenir, mais ce n'est pas véritablement des personnages aussi anciens que ça a passé. Chacun de Odoré a eu à exécuter un seul mandat, donc à la tête de l'État, et ils veulent rébelloter, alors que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre sous-région, ce n'est pas du tout ça.
Merci.
Ça, sauf les derniers espoirs que nous avons fait ces derniers temps. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas trop lié à l'ancienneté des figures politiques, c'est l'enjeu même de l'élection que nous sommes en train de vivre comme ça.
Merci.
C'est normal qu'il y ait des tensions en période électorale. C'est savoir contenir donc cette tension, éduquer les populations, les sensibiliser donc à ce que la tension n'aboutisse pas juste à une violence qui puisse être soutenue.
Merci Boukari Ouaba. On va essayer de vous rappeler avec l'espoir que la qualité de la ligne s'améliore parce qu'on ne vous entend pas très bien, Boukari Ouaba qui est à Ouagadougou. Je vous pose la même question, hein, Julien Oussou. Est-ce que au Ghana, vous dites qu'il est peut-être temps de renouveler le paysage politique de votre pays pour éviter ce duel qui aujourd'hui pose visiblement problème?
Merci beaucoup. Je suis béninois, mais travaillant et résident au Ghana. Et je ne suis pas ghanéen, mais je pense que...
Merci de la précision.
Voilà.
Mais vous êtes à Accra.
Voilà. C'est important parce que même le système électoral, et ça fait comme une lutte entre deux. Et donc, une lutte entre deux qui devient souvent difficile à gérer. Et dans le contexte actuel, M. Rumpel l'a évoqué, il y avait ce qu'ils appellent ici le visitantisme, ces gens, les ministres des partis politiques. On a eu la chance pour ce scrutin qu'ils ont été moins opérationnels pendant la campagne et le scrutin à cause de la loi qui a été votée. Mais on a des craintes que ça reprenne du service d'une certaine façon.
Vous voulez parler de la loi sur les ministres qu'évoquait M. Oumpé?
Monsieur Oumpé, qui a beaucoup aidé, mais on craint maintenant pour la période post-électorale, parce que si vous regardez même l'avis, je veux dire le communiqué de la sécurité sur les 5 morts, vous allez vous rendre compte qu'il y a des morts selon la sécurité qui sont du fait de balles non tirées par les forces de sécurité. Autrement dit, comme si on évoquait ou on acceptait ou on révélait qu'il y a des armes en circulation. Et donc, les populations ou les militants sont regroupés autour de l'élection de la commission électorale avec peut-être des armes en circulation.
Donc, la loi n'a pas réussi à neutraliser entièrement ces milices dont parlait M. Oumpé.
La tension qui est en jeu maintenant est en train de relancer quelque chose de ce côté. C'est ce que je voudrais dire. La tension et le fait que les résultats sont très serrés seraient en train de relancer quelque chose. Puisqu'on ne l'a pas eu pendant la campagne ou qu'on n'a pas eu assez d'initiatives du genre pendant le jour du scrutin, peut-être relativement moindre par rapport aux élections antérieures, on est en train de sentir comme s'il y a une mobilisation, il y a une relance de quelque chose qui pourrait arriver.
Merci.
Si les acteurs n'arrivent pas à démobiliser les militants.
C'est
le grand enjeu maintenant, démobiliser les militants.
Monsieur Oumpé, alors, est-ce que la communauté internationale et peut-être l'organisation sous-régionale, la CDAO, n'ont pas dormi un peu sur leur laurier avec l'idée reconnue et acceptée que le Ghana est un pays exemplaire, personne n'a vu peut-être venir, je veux dire en dehors peut-être de la classe politique elle-même, ces violences?
Disons que tout le monde a, beaucoup de gens ont anticipé qu'il y aurait des tensions. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a eu plusieurs missions, aussi bien de la CDAO que des missions de l'UNOAS, qui est le bureau de l'Afrique de l'Ouest des Nations Unies.
Ils ont avant les élections.
Avant les élections, plusieurs missions au Ghana. Et donc l'idée était de suivre et de s'assurer que le Ghana demeure, comme vous l'avez si bien dit, demeure ce modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et j'imagine qu'en ce moment, ils sont sur le terrain parce qu'il y a une mission conjointe, UNOAS, CEDEAO, Union africaine, en train de parler aux différents acteurs pour éviter qu'on aille vers, n'est-ce pas, des situations extrêmes.
Peut-être donc, la démarche consistant à pousser les deux acteurs à accepter les résultats avant que la commission électorale ne les annonce.
Absolument. Je crois qu'ils ont même signé un code de conduite.
Un pacte de paix, ça c'était trois jours avant les élections. Mais cette, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs, c'est comme si voilà, ce pacte de paix a été oublié par les deux signataires et il s'est même envolé.
Non. Bon, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des morts qu'il faut déplorer nécessairement. C'est vrai qu'il y a des blessés, c'est vrai qu'il y a eu de la violence. Mais quand vous comparez aux situations qu'on connaît dans d'autres pays de la sous-région, je pense que c'est, je vais mettre en griffe, avec beaucoup de respect pour ceux qui ont perdu leur vie, c'est quand même raisonnable. Quand vous regardez les situations auxquelles nous sommes habitués dans nos pays lorsque nous organisons les élections.
Merci.
Donc, de mon point de vue, si la commission électorale peut sortir de façon rapide et donner les résultats, je pense que ça va faire baisser la tension parce qu'ils ont l'habitude au Ghana de porter leur désaccord sur les résultats des élections devant les tribunaux, devant les cours qui sont chargés de gérer le contentieux électoral.
Mais il y a cette crainte que Monsieur Oussou expliquait, qu'il y a des morts, des personnes qui ont été tuées par balles, mais pas les balles des forces de l'ordre, mais qui sont des balles tirées, on ne sait pas, mais pas par les forces de l'ordre. Est-ce que cette inquiétude ne demeure pas un gros problème ?
Non, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est sûr, je suis complètement d'accord avec vous. C'est sûr que c'est inquiétant. Et c'est effrayant même d'imaginer qu'il y a des civils qui ont des armes qui peuvent sortir dans des disputes autour des élections. Et donc je pense que ça, on ne connaissait pas beaucoup ça au Ghana. Et donc j'imagine que les autorités, une fois les élections terminées, doivent prendre des mesures plus sérieuses vis-à-vis de cette situation.
Est-ce que Boukari Ouoba est là ? La ligne avec Ouaga est-elle meilleure ? Boukari, vous êtes là ?
Je vous reçois.
Voilà. Comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il y a une mission de la CEDEAO sur place. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle se solde par un apaisement du climat ?
Oui, mais je crois que c'est difficile pour la CEDEAO de manœuvrer en ce moment précis parce qu'il faut intervenir en amont. Actuellement, c'est que tout le monde veut savoir qui a gagné l'élection. Quels sont les résultats de ce double scrutin-là? Je crois que c'est la CENI qui doit beaucoup s'activer et rassurer les acteurs en proclamant aussi tôt que possible les résultats, mais surtout des résultats crédibles qui vont être d'une certaine manière
acceptés par tous.
Confirmés.
Merci, on marque une pause à nouveau.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et notre thème de ce soir porte sur la période post-électorale assez tendue au Gabon. Nos invités sont Mathias Oumpe de Osiwa à Dakar au Sénégal, Julien Oussou de l'ONG WANEP à Accra au Ghana et Boukari Ouoba, rédacteur en chef du journal Mutation à Ouaga au Burkina Faso. Et avant la pause, Boukari, vous étiez en train de nous expliquer que la mission de bons offices Quentin la CEDEAO risque de ne pas réussir et que ça pourrait être difficile pour la CEDEAO d'obtenir à apaiser le climat politique.
Oui, ça va être difficile pour la CEDEAO. Je pense qu'au moment où nous sommes, c'est les acteurs locaux qui doivent beaucoup plus jouer. Et on espère qu'il y a des acteurs effectivement au Ghana dont la voix porte et qui sont entendus des deux camps. C'est en cela que peut-être quelqu'un comme l'ancien président John Jerry Rowling aurait pu servir à quelque chose. C'est vrai qu'on ne peut pas lier les violences post-électorales à son décès. Il n'y a véritablement pas de lien. Mais c'est quand même un acteur, si la situation l'exige, qui peut jouer un rôle important.
Mais pourquoi, d'après vous, la CEDEAO serait disqualifiée?
Vous pouvez répéter ?
Pourquoi la CEDEAO, pour vous, ne peut pas réussir à réconcilier les acteurs politiques ? Vous semblez dire qu'elle est disqualifiée.
Non, elle n'est pas du tout disqualifiée. Elle n'est pas disqualifiée. Je pense que le rôle de la CEDEAO, elle est beaucoup plus important en amont que lorsqu'on est déjà dans une période de tension comme celle-là. C'est vrai, les rencontres, c'est important. Ils vont avoir des rencontres dans des hôtels, dans des salons. Mais actuellement, il se passe des violences, des tensions sur le terrain. La CEDEAO ne descend pas au niveau des communes, dans les localités, pour voir exactement ce qui se passe. Donc, il faut qu'au niveau des localités éloignées, qu'ils puissent avoir des acteurs qui appellent à l'apaisement. C'est ça qui va faire baisser la tension. Autrement, ce que la CEDEAO va faire, c'est de réunir les grands responsables politiques, notamment les candidats, les chefs des partis politiques, leur parler pour qu'ils fassent passer aussi le message. Mais est-ce que déjà ce n'est pas fait? Il y a des appels partout. Est-ce qu'aujourd'hui la population obtempère sur le terrain par rapport à ces violences-là? La CEDEAO va certainement faire quelque chose, mais je crois que c'est un peu trop tard lorsqu'il y a déjà des violences et qu'on pense
et des morts d'hommes. Il faut passer par les solutions endogènes. Julien Oussou, est-ce que vous considérez, vous qui connaissez mieux le terrain et qui êtes à Accra, que ces violences font partie d'un épisode provisoire, une erreur de parcours, ou pensez-vous que ces tensions vont s'installer dans la durée et qu'il va falloir peut-être désormais faire avec lors des prochains scrutins au Ghana?
Peut-être qu'il est un peu tôt pour conclure cela ou pour avoir une idée claire de ce que l'analyse doit se poursuivre après ce processus. Il faut aller au terme de ce processus, arriver à voir les résultats, à voir les changements qu'il y a eu de 2016 à ce jour. Je vois aussi l'ampleur ou les éléments caractéristiques de la violence qu'on aurait eu ou de celle qu'on a déjà. Il faut un temps pour apprécier cela. Mais on sait, quand on se rappelle de 2016, que la période post-électorale, les résultats ont toujours été, des étapes très difficiles pour les élections au Ghana. Donc il faudrait peut-être voir est-ce qu'il y a de nouvelles évolutions, mais il faudra plus de temps pour pouvoir y analyser, en fait, y arriver et pouvoir les analyser. Mais la situation, comme on le voit, on le vit ici, Elle est préoccupante. La communauté internationale, la CEDEAO, l'UNOAS et l'Union africaine sont à pied d'œuvre. Il y a un des aspects clés dans le contexte ghanéen qui est le National Peace Council, le Conseil national pour la paix. Même pour le Conseil, il y a des difficultés à accéder à certains acteurs qui sont résistants à se laisser aller. Et donc cela, c'est des éléments inquiétants aussi dans le contexte.
C'est comme ça un durcissement des acteurs clés de la crise. C'est également votre analyse, M. Oumpé, que peut-être il faut attendre pour voir si cette violence à laquelle on assiste aujourd'hui, on est parti pour la durée ou c'est juste passager?
Bon, disons qu'il y a des facteurs qui peuvent aider à répondre à cette question de façon relativement facile. Si par exemple on donne les élections, je vais mettre en griffe à la satisfaction des acteurs, par exemple la méfiance vis-à-vis de la commission électorale va baisser. Par exemple, si les milices privées, à cause de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sont prises au sérieux une fois les élections terminées, on peut réduire davantage l'un des facteurs qui concourt à la tension que nous observons en ce moment.
Quand vous parlez de prise au sérieux, juste une précision, M. Oumpé, c'est-à-dire quoi? Là, il y a la loi qui s'est mise en action, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire après ces élections concernant ces milices?
Non, je pense qu'il faut... C'est une occasion pour évaluer la loi. C'est la première fois, une fois que la loi a été adoptée, qu'on peut dire qu'on l'expérimente vraiment dans la pratique. Et donc, les forces de sécurité, les partis politiques, les parlementaires vont s'asseoir et évaluer et penser ensemble aux mesures qu'il faut prendre pour qu'on réduise davantage la nuisance, n'est-ce pas, de ces groupes-là qui appartiennent aux deux partis politiques. Et le Ghana est reconnu pour cela. C'est l'un des rares pays dans la sous-région où vous avez la capacité des acteurs politiques, une fois les élections terminées, de s'asseoir et de réfléchir sur comment améliorer le système. Et le dernier facteur pour moi, que M. Oussou a soulevé.
Il y a une sorte de post-mortem après chaque élection.
Voilà. Il y a quand même des acteurs endogènes un peu comme dans le cas du Burkina, même s'ils ne sont pas pléthores, il y a des acteurs endogènes que les acteurs politiques écoutent. Et donc je crois que tout cela doit être en œuvre en ce moment pour amener les deux grands leaders des deux grands partis politiques à éviter, n'est-ce pas, les escalades.
Merci, merci beaucoup. En un mot, Julien Oussou, vous aussi, solution endogène?
Oui, oui, parce que dans le contexte actuel, il est possible que même si les leaders acceptent de s'adoucir, il est possible que la base ne suive pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin que beaucoup d'acteurs au niveau communautaire puissent aussi s'impliquer pour que voilà, il y ait comme une responsabilité à amener les uns et les autres à attendre le moment du dialogue et pouvoir se regarder, évaluer et tirer les leçons pour améliorer le processus à venir.
Merci beaucoup, merci, et c'est la fin de cette édition de Grand Rendez-vous. Merci à vous, Julien Oussou, coordonnateur régional du WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, en ligne d'Accra au Ghana, et en ligne de Dakar au Sénégal, Mathias Ompé, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa, et à Ouagadougou, nous avions le plaisir d'accueillir Boukari Woba, rédacteur en chef du journal Mutation et secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Merci à Valentin Blanc pour la mise en onde et à Edouard Ning qui m'a accompagné dans la planification de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.